faire tenir le monde dans un livre, ou au moins une journée sur Terre, celle du 21 mars 1989. Telle est l'ambition de ce roman à la fois réaliste et baroque, excessif, polyphonique. L'invention du monde est aussi une bibliothèque où sont évoqués, salués, parodiés, quelques-uns des livres qui, de Marco Polo à Jules Verne, de Lucrèce à Dante ou Camoens, ont prétendu donner une représentation globale du monde. Dans les pages qui suivent, le texte matriciel est le très bref passage des évangiles de Luc et Matthieu, où Satan tente le Christ au désert, lui présentant et lui offrant tous les royaumes du monde.
Pages arrachées à Olivier Rollin. Troisième épisode. L'invention du monde. Chose vue à Congo Market.
Seigneur, je me mourais d'impatience. Mais que lui fallait-il donc? Je décidai de faire pour elle étinceler ses calligrammes de tout l'or de la nuit. Je tirai sur l'Atlantique le grand voile d'encre. J'allumai d'un coup des rivières d'ampoules reflétées par la mer, des averses de lumière, des champs d'étincelles, des sillons dans l'obscurité où germaient des pousses de feu, d'immatérielles forêts dont il semblait que chaque feuille fût un éclat d'électricité. Je fis disparaître Rio de Janeiro et suscitai à sa place un fantôme grouillant de lueur. Je posai Fortaleza comme une forteresse de cristal sur la côte. Je fis retomber sur Récif, à la pointe de l'Amérique, une pluie d'embrun scintillant. J'allumai des millions de cierges dans l'ombre bleue de Salvador. Je fis miroiter les immensités de Sao Paulo comme une mer sous la lune. Je poussai la marée de la nuit le long du Rio de la Plata. Je couvris Montevideo de fils et de pièces d'argent. Je plaquai sur la pampa, comme sur le visage d'un roi indien mort, l'immense masque d'or craquelé de cabochons biseautés de Buenos Aires. Je jetai dans les profondeurs des plaines les immenses filaments noctiluques des autoroutes. Lorsque j'eus allumé tous ces candélabres, brillant comme les cheveux de Marie-Madeleine dans la nuit du Golgotha, je vis que cela était beau. Et de nouveau, me tournant vers elle, je lui dis « Je te donne à toi la gloire de ces royaumes, parce qu'elle m'a été livrée, et je l'offre à qui me plaît, et elle sera à toi si tu m'aimes. » Mais une troisième fois, elle me résista et me dit « Va des rétro, Satanas. » Alors je lui montrai, moi, l'évangéliste, les scènes de l'Écriture sainte répandues dans le monde, voyageant à la surface écrite du monde. Je la fis plonger dans le métro de New York pour assister à la naissance de l'enfant. Pas de bœuf ni d'âne, pas de mangeoire de paille, pas de berger, pas d'étoile, pas d'ange ni de roi mage non plus, mais un flic en chemisette de la Transit Authority Police. Une rampe au néon, un établi avec un étau, des armoires en métal, un distributeur automatique de Coca-Cola dans un coin, un masque de soudeur, et un chalumeau oxyacétylénique. Au mur, des photos de filles à quatre pattes en porte-jartelle et barésille, ou bien debout, tête renversée, arrondissant les mains autour de seins énormes. Martha Davis est sans abri. Elle erre dans le métro toute la journée. Elle s'y protège du vent glacial qui fait voler chapeaux et parapluies, rouler gobelets de carton et boîtes de bière au long des avenues de Manhattan, claquer les bannières étoilées et écumer la mer au-delà de Battery et mourir les pauvres. C'est à la hauteur de la 163e rue qu'elle a senti son ventre devenir dur comme de la pierre, puis se relâcher, se durcir encore. Et ensuite, les contractions se sont succédées au rythme des stations. 155e, 145e, 135e, 125e, 116e, Cathedral Parkway. Puis s'accélérant le long de Central Park, 103e, 96e, 72e, Columbus Circle, 86e, 7e Avenue. Mon Dieu, que faire, tous ces gens qui la regardaient et s'éloignaient d'elle. Quelqu'un l'a aidé tout de même à sortir à Rockefeller Plaza. Les eaux commençaient à ruisseler le long de ses jambes. Et là, elle s'est presque évanouie dans les bras du flic. « Je suis prête, lui a-t-elle soufflé « I'm ready » et il l'a porté dans un atelier de la station. Et maintenant l'enfant sort, la tête la première, Dieu soit loué, entre ses cuisses écartées sur l'établi. Le flic fait chauffer de l'eau et cherche partout des serviettes qui ne soient pas maculées de cambouis. Il ne sait pas très bien pourquoi tout ça, mais il l'a vu faire au cinéma, dans de pareilles circonstances. Dans quoi déjà ? Était-ce pas « Autant en emporte le vent » ? On entend la rumeur des métros express, le grondement de fer des rames qui filent à pleine vitesse. Martha a l'impression que c'est dans le tunnel de son ventre qu'il roule, par son sexe ouvert qu'il jaillisse. Puis elle se dit que son fils vient au monde, tout de même, dans une des stations les plus chics de New York. Elle y voit un présage heureux, ou pas trop malheureux. Le massacre des innocents se jouait en même temps sur plusieurs scènes du monde. Tout, chaque épisode, chaque vers ou verset des histoires fondamentales, se réécrivait sans cesse dans des variations à chaque fois nouvelles. Le monde, disais-je à Maricel, était l'ensemble de ces millions de réécritures simultanées. Je l'amenais d'abord, non sans hésiter, tant je savais qu'elle allait en être affectée, à Congo Market, dans le West End de Freetown. Je dus écarter à coups de bâton deux charognards qui, ailes en drapeau, rebondissant sur les ignobles ressorts violacés de leurs serres, se disputaient de la cisaille, dans le caniveau d'Edking Street, quelque chose que la boue empêchait d'abord de bien distinguer, courbes et bosses noyées, érodées, comme l'empreinte d'une monnaie très ancienne qu'on eût exhumée. Ce paquet replié au milieu des ordures, à demi immergé dans un magma opaque et fétide, c'était un tout jeune enfant, de quelques jours à peine. Tête tournée vers le ciel, bras repliés sous le menton, fesses calées contre une feuille de bananier, jambes allongées vers la gauche, comme s'il était assis. Au village de Boutéhéry, lorsque Rose Kateri revenait de la rivière, un lourd bidon d'eau sur la tête, elle voyait de loin sa case transformée en une colonne de flammes, explosant en étincelles et en fumée très haut dans le ciel blanc, et au milieu, il y avait son bébé d'un an. Les soldats d'Hérode s'appellent feu ou mer ou maladie, faim et malheur. Parfois des masques étranges recouvrent leur visage. Leur corps disparaît sous des armures d'allégorie. Souvent aussi on leur voit des traits pauvrement humains. Ceux des villageois de l'arrière-pays de Lahore, par exemple, qui courent en vociférant derrière le jeune Massouk, parce qu'une des pierres qu'ils lançaient pour faire tomber les mangues a atterri dans leur casserole de riz. Ils le rattrapent, le jettent sur la terre rouge et le tuent à coups de pied. Ou bien le visage de bigots fanatiques des parents de Johnson Siaka, qui ne le nourrissent que d'eau et de prières. Et maintenant, ses côtes, comme des couteaux jouant sous la peau bleue et sèche, se soulèvent une dernière fois. Puis il meurt, sur un grabat entouré d'images pieuses, dans la chaleur étouffante de dizaines de bougies qui font fourmiller d'ombres et de lueurs son corps presque momifié à Kakamega, non loin de Boutéhéry. Ou bien encore les têtes de pharisiens du camarade Galilée Mukangadza et de sa femme, la camarade Finika Mukangadza, lorsqu'on vient les arrêter. La scène est presque exactement la même. Le monde, Maricel, est comme un immense miroir pulvérisé, un amas tourbillonnant d'infimes éclats catoptriques, un cyclone s'enroulant sur lui-même dans tous les sens, et dont chaque gouttelette de chaque nuage, réfléchissante comme si elle fût de mercure, en reproduirait d'autres, parfois toutes proches, puis l'instant d'après, infiniment éloigné, emporté par d'incessants et imprévisibles mouvements de convection et d'advection. La scène est presque exactement la même. Elle se répète aussi dans un village enneigé de Silésie, dans une ferme ensevelie de l'Oregon, les images, les flammes des bougies et l'enfant. Abednego, allongé sur un grabat, à Bulawayo, l'écume aux lèvres, mort d'une pneumonie soignée avec des prières, parce que Galilée et Finika appartiennent à l'église apostolique du camarade Johann Mazowé, qui enseigne que Jésus-Christ n'étant allé, que l'on sache, ni à l'école ni à l'hôpital, il n'y a pas de raison de ne pas l'imiter sur ce chapitre comme sur tous les autres. Nous croyons que la maladie peut être soignée par l'Esprit Saint et la prière, déclare Finika au policier. Nous avons été élevés dans cette croyance et il n'y a aucune chance que nous en changions. There is no way we can change it. Car il arrive, Maricel et même souvent, que les soldats d'Hérode aient des visages de femmes, les traits furieux de Médée, des masques obtus de mère ou de marâtre, les yeux flambants de haine d'une maîtresse éconduite. Telle cette Madame Digba, qui est venue se réfugier chez son amie Monilla à Motemo, parce que son mari la battait. Que ne lui a-t-il rompu les os? Car lorsque la trop confiante Monilla est partie quelques jours rendre visite à ses parents, qui habitent dans un village de brousse, Madame Digba, pire en vérité que la femme de Putiphar, en a profité pour « have fun »,« hacer las porquerias », si tu préfères, avec Fodai, le mari. Mais le pire est à venir, voici. Monilla est revenue, et Fodai, qui n'est pas fou, délaisse la Digba, qui en conçoit de la colère. Alors, pendant que le petit Moussa, l'enfant de son ami et rival, dort, elle dissout de la soude caustique dans de l'eau, puis réveille le bébé et le force à avaler, enfonçant la bouteille dans la bouche habituée à téter le lait. Peux-tu concevoir semblable horreur? Je montrais encore à Maricel, moi l'évangéliste, les miracles qui s'accomplissaient pour que croient les générations incrédules et perverties. Osmesinda de Jésus, la bien-nommée, rentrait chez elle en claudiquant, à Olavir, dans la banlieue de Rio. S'aidant de sa canne, comme d'une gaffe, elle poussait sa lourde barque fatiguée, aux larges tangantes hanches, le long de la rue Vittorino du Amaral, au numéro 20 de laquelle elle demeurait. Elle boitait bas. Et pourtant son vieux visage fripé rayonnait d'un bonheur qu'elle s'arrêtait tous les 10 mètres pour communiquer aux voisins. Tels les deux aveugles que le fils de l'homme guérit près de Capharnaüm et qui, malgré ses injonctions, allèrent rapporter le prodige par tout le pays. C'est que 10 jours auparavant, elle était couchée sur une paillasse à l'hôpital, son pied et sa jambe gauche gonflés, marbrés, violacés, commençaient à ressembler aux saucisses qu'on fait cuire dans la feijoada. Et le chirurgien était venu lui dire qu'on ne pouvait plus rien contre la gangrène et qu'il allait falloir l'amputer. Alors Osmesinda avait commencé une neuvaine de prières à San Judas Tadeo, patron des choses difficiles. Et certes, son affaire l'était. « Oh, très glorieux apôtre San Judas, priez pour moi qui suis si malheureuse et faites usage, je vous en prie, de ce privilège à vous accordé de secourir promptement et visiblement lorsque presque tout espoir a disparu. » Au même moment, dans le monde entier, des milliers de calamiteux, une internationale de malades, d'abandonnés, de vilipendés, de dépouillés, une balbutiante armée de laissés-pour-compte, de misérables qui n'avaient que leur chaîne à perdre et la corde pour se pendre, priaient Thaddée, le méconnu des 12. « Oh, Saint Jude, apostle and martyr, great in virtues and rich in miracles. Oh, grand par les vertus et riche en miracles, proche compagnon de Jésus-Christ, oh, fidèle intercesseur, patron des temps difficiles. » Et, par exemple, John Tambo, un jeune homme de Soweto, qui passait des nuits sans sommeil et des jours d'agonie depuis que sa fiancée, Miss Precious Musisiwe Nkoe, avait disparu. Il avait couru tous les postes de police, tous les hôpitaux, toutes les morgues. Imagine-t-on ce que c'est que de trembler en voyant le drap soulevé par une forme qui a la taille et la corpulence de son amoureuse, d'éprouver, en découvrant le visage de pierre d'une inconnue, un mélange de soulagement et d'horreur. Les jours, les semaines passant, ces corps abstraits sous les bâches, ces visages interchangeables puisqu'il n'était pas le sien, avait fini par se rassembler pour composer une sorte de fantôme flou qui luttait pour détruire, ou au moins altérer, le souvenir concret des traits du corps de Precious, pour s'emparer de la mémoire qui était ce qui lui restait d'elle et lui faire subir la corruption que la mort inflige à la chair. John Tambo priait Saint Jude, demeurant jour et nuit maintenant près du téléphone à attendre un appel, voyant par la fenêtre, indifférent, les lampes s'allumer, puis s'éteindre, puis se rallumer, sursautant lorsque la sonnerie retentissait, maudissant horriblement, malgré qu'il en eût, ceux dont la voix lui infligeait la déception de n'être pas la sienne ou celle de quelqu'un qui connut des nouvelles d'elle. Des profondeurs de mon cœur, je m'adresse à vous. Je vous supplie humblement de venir maintenant à mon aide. Et si vous ne pouvez pas me la rendre, épargnez-moi au moins d'avoir sans cesse devant mes yeux l'opéra démoniaque de tous ces destins possibles. Or, voici, le 10e jour, après les 27 pater, 27 ave, 27 gloria habituelles, la jambe d'Osmesinda avait subitement désenflé et ne la faisait presque plus souffrir, pas plus qu'avant en tout cas. Et le médecin lui avait dit « Lève-toi et marche ». Alléluia. Aux îles Fidji, les parents du petit Rakesh Chand étaient, comme tous les jours depuis 2 mois, prostrés de part et d'autre du lit où leur 11e enfant gisait immobile, les yeux clos, plongé dans un coma profond depuis qu'un autobus l'avait renversé dans la rue principale de Tabia. Et soudain, à leur stupeur incrédule et à celle des autres malades de la salle commune de l'Ambassa Hospital et des infirmières qui accouraient dans un grand tatamarre de cris perçants et de portes claquées, les paupières de l'enfant se soulevaient, les bras bougeaient sous le drap, un genou se relevait, et Rakesh, s'asseyant sur son lit, se mettait aussitôt à parler, exactement comme la fille du chef de la synagogue à qui Jésus avait dit « Talita cum, fillette, lève-toi ». J'avais encore des miracles en pagaille à lui montrer, à la rebelle magdaléenne, et des marchands chassés du temple, et des têtes de prophètes tranchées pour les jambes de jeunes danseuses. Mais j'accélérais le film car j'avais hâte d'en venir à la passion. Et dans mon esprit, que le déferlement incessant de la mer des images n'empêchait pas, comme s'il se fût agi d'une autre part de lui-même, d'ourdir tranquillement de basses petites ruses, de méditer des embuscades où les visions les plus horribles, les plus sacrées même, fussent utilisées à des fins de profane galanterie, ce que j'escomptais, c'était que, comme on voit sur le retable d'Isenheim, la mère du Christ soutenue au pied de la croix par l'apôtre le plus aimé, de même, Marie la Villanovienne, terrassée par trop d'émotions, se laisserait enfin aller dans mes bras hypocrites. Je lui montrai alors la populace vociférant « Barabbas, Barabbas » et « Crucifiez-le » autour du prétoire de Pilate et du Sanhédrin. Et c'était à Dhaka et à Chittagong qu'elle se rassemblait, pendant et décapitant des effigies de papier ou de chiffon de l'écrivain Salman Rushdie, trimballant des cercueils sur lesquels avait été écrit, avec souvent des fautes, son nom Oni, conspuant ceux des poètes Shamshur Rahman et Sayed Atikula, de la Begum Soufia Kamal, du professeur Ahmed Sharif, déchirant et jetant leurs livres dans des brasiers en criant « à mort », se repaissant d'un festin de symboles macabres, s'épuisant en cris de haine, s'enivrant et se désespérant de l'odeur du feu, des cendres qui volaient, du spectacle des bûchers, des potences, des haches, des suppliciés imaginaires, s'abrutissant de braillements répercutés par des haut-parleurs, déformés par les échos et les grésillements, incompréhensibles mais d'autant plus excitants, voix et pas voix, comme la parole révélée, portant, aucunement altérée par l'équivoque détestable des mots, la signification brute du fouet, de la chair lacérée, tranchée, de la vengeance et de l'expiation, de l'humiliation triomphant mais ne s'en sentant pas moins humiliée, de la communauté trouble, agrégée par la haine de l'humain, la haine de soi, effrayée par Dieu parce qu'effrayée par soi, mettant l'effroi de soi dans un Dieu effroyable, la haine des lettres humaines dans la vénération craintive de la lettre divine, s'encourageant à être bestial dans l'imitation de Dieu, trouvant dans l'adoration féroce de l'un et de l'unique la stimulation à être multitude et vile multitude, se frappant et se déchirant la poitrine, s'époumonant à Gulistan Square devant les mosquées Anderkila Shali Jame et Dampara Jamiatul Fala, lançant des briques dans les pare-brises des autobus à Palabi et Moakali, incendiant des mobilettes à Motijil, bloquant des trains à Kamalapur et Narsingdi Station, marchant, courant,
transpirant, crachant dans les gaz lacrymogènes, attaquant les rares commerces qui n'avaient pas baissé le rideau de fer, cassant des vitres, s'imaginant qu'en prenant une rue, elle prenait le monde, hissant à un croc au bout de l'élingue d'une grue, un pantin disloqué, lardé de couteaux, qui était une représentation magique de l'écrivain ou de l'esprit humain, et aussi le simulacre de sa détresse matérielle et morale. Au-dessus des bassins, des entrepôts, des docks de chittagong, des coques, des tas de copras et de riz, des balles de jute, des rails, des quais, des locomotives diesel, des fumées déchirées par un vent d'orage. Au-dessus, des bétés, à l'ombre d'un hangar, des baraques, des chiens scrofuleux fouillant l'état d'ordure, disputant leur pitance aux enfants. Des flaques d'eau paludéennes, des terrains vagues, de toute la misère immense que tranchait la lame d'argent noir de la mer. Et pour achever de lui dévoiler le monde comme un vaste mystère, un gigantesque auto-sacramental joué, sans aucun artifice, avec d'authentiques miracles, mais aussi de vrais outrages, de véritables couronnes d'épines, sur des milliers de scènes à la fois, et pas seulement dans la Calle Mayor de Villanueva, comme si la sphère terrestre était formée de l'évidement de deux amphithéâtres accolés, vissés l'un sur l'autre, dont chaque gradin eût été peuplé de millions d'acteurs, et nous, suspendus, spectateurs uniques, au centre de cette toupie dramatique, je lui fis paraître le Golgotha. Je n'eus pas à porter mes yeux bien loin de Chittagong. J'en trouvai un à Dolaïkal, quartier de Dhaka. À un pylône électrique était lié, par trois tours de grosses cordes qui le serraient, l'un sous les genoux, l'autre au milieu du ventre, le dernier à hauteur de la poitrine, un homme jeune, maigre, vêtu d'une sorte de long pagne rayé et d'un t-shirt dont l'ample encolure ronde dégageait une partie du torse. Les pieds de cocane, c'était le nom du garrotté que proclamait un panneau de carton fixé au-dessus de sa tête. Cocane, voleur. Ses pieds, très longs et tendineux, comme ceux du crucifié d'Isenheim, reposaient sur le socle de béton du pylône. Le corps suspendu par les liens était légèrement déjeté vers la gauche. Le sang ne coulait pas selon l'axe sagittal, mais en formant avec lui un angle aigu d'environ 20 degrés. Cheveux courts, lèvres proéminentes, tuméfiées, pommettes et nez marqués, le visage légèrement simiesque se tournait vers le dernier à lui avoir porté un coup, un gamin de 12-13 ans. Le regard de Cocane, pourtant, semblait presque indifférent. Il avait été surpris, tôt dans la matinée, en train de voler dans la maison d'un riche. C'est Petkata Jahangir, estomac fendu, qui l'avait chargé du boulot. Le riche l'avait livré à la foule. Comme c'était justement Hartal, grève, à cause de Salman Rushdie, on ne travaillait pas et il fallait trouver des distractions pour meubler la journée. Les gosses aussi s'allaient changer du cricket et du foot dans la rue. Il y en avait 12 autour de lui. Crânes ras, piaillantes petites gueules pouilleuses, rayeuses, certains avec des lattes de bambou, d'autres y allaient à main ou pieds nus. Le plus malin avait inventé d'enduire ses lèvres et ses plaies de sucre et d'en déverser un petit tas à ses pieds pour que les fourmis soient de la fête. Personne n'avait songé au vinaigre. Et il y avait des ténèbres sur toute la terre.
C'était « Pages arrachées » à Olivier Rollin. Troisième épisode. L'invention du monde. Chose vue à Congo Market. Avec Jean-Damien Barbin. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Litorkia. Réalisation, Sophie Aude Picon.
Extrait choisi par Olivier Rollin. L'invention du monde est publié aux éditions du Seuil.